Ce soir, nous allons évoquer la vie et l'œuvre de Benito Cellini à partir de son autobiographie. Je vais vous mettre sous les yeux le Ponte Vecchio de Florence, puisque Benito est né à Florence. Le titre complet de son ouvrage est celui-ci. Vita di Benvenuto Cellini, orefice scultore fiorentino de lui medesimo scritta. Ça signifie la vie de Benito Cellini, orfèvre et sculpteur florentin, écrite par lui-même. C'est le premier grand récit autobiographique de la littérature occidentale laissé par un artiste. Commencée en 1558 et interrompue vers 1567, elle n'est publiée qu'en 1728 à Naples, soit 160 ans plus tard, après la fin de son écriture. Traduite pour la première fois en allemand par Goethe en 1803, La Vita a été publiée pour la première fois en français en 1822. Après être passé entre les mains de divers collectionneurs, le manuscrit entra à la bibliothèque laurentienne de Florence en 1825, où il se trouve encore aujourd'hui. Les 7 premières feuilles avaient été écrites par Cellini. Mais il les enleva et il jugea plus facile de dicter cet ouvrage à un apprenti, Michele, fils de Michele di Goro Vestri, jeune garçon de 13 ans environ. Après avoir recopié le commencement, Michele continua d'écrire sous la dictée de l'auteur. Je donne la parole à Cellini. Pendant que je travaillais, je lui dictais ma vie. Et comme j'en retirais quelques plaisirs, je travaillais beaucoup plus assidûment et mon œuvre avançait d'autant plus. Cellini a écrit et dicté sa vie dans la langue de son époque, imprégnée de formes régionales, le toscan. Mais il a lui-même inventé sa langue à travers des néologismes et à travers la création de son propre style. Le manuscrit est aussi une sorte de radiographie de la langue italienne, écrite et parlée, de son temps. L'approche cellinienne constituera un modèle pour ceux qui se pencheront sur le genre autobiographique. La modernité de son style a été l'une des raisons du succès de l'ouvrage. En effet, l'auteur de la Vita révèle les conditions de vie et de travail dans un atelier de son temps, les rapports entre mécènes et artistes, les relations entre art et pouvoir, le nomadisme de l'artiste de la fin de la Renaissance. On assiste donc au fil des pages à la construction d'un personnage, une sorte de surhomme artistique, qui est né et qui a vécu pour faire œuvre. Je me suis appuyé sur le récit de Cellini pour la structure de mon intervention, mais je l'ai complété par quelques informations qui me paraissaient utiles. Donc, vous avez le Ponte Vecchio, et au centre du pont, alors, ici, il y a une sculpture, un bronze, que voici. Sous l'arcade centrale du Ponte Vecchio se dresse donc un buste en bronze de Benvenuto Cellini. Son buste est probablement inspiré de cette gravure, la gravure qui est à droite. Un petit portrait peint dans un médaillon se trouve au musée des Courants, c'est celui qui est à droite. Mais en 2005, une découverte importante a eu lieu. Ce portrait, à gauche, a été identifié comme étant un autoportrait du célèbre orfèvre. C'est grâce à la Vita que Benvenuto est devenu l'orfèvre le plus célèbre du monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été aussi un grand sculpteur. Deux idées générales se croisent constamment dans son ouvrage, les épreuves rencontrées par un génie indépendant et l'apparition de chefs-d'œuvre de l'art. On sent l'ardeur passionnée de l'artiste et sa tendance à l'autosatisfaction. Irrespect et impertinence sont pour Benvenuto des moyens de revendiquer son indépendance. Il est insolent, hâbleur, bagarreur, mais également sûr de son talent. Jamais satisfait, il cherche toujours à compléter et à parfaire ses connaissances. Utilisant un langage souvent cru, il dénonce avec ironie la bêtise ou la médiocrité de certains grands personnages qu'il côtoie ou de ses condisciples. Il décrit le pape Clément VII avec ses petits yeux de porc. Et il dit que pour obtenir ce qu'il veut du pape Paul III, il l'aborde au moment favorable de son vin, juste avant le vomissement. L'orfèvre était un personnage capital à la Renaissance. Il réalisait des médailles que l'on portait au chapeau, qu'on appelait des enseignes, des dagues, des bijoux, des coffrets, des vases d'or ou d'argent. Benvenuto est le seul à aborder si directement et si passionnément les données de son art. Il décrit avec force et détail les œuvres qu'il réalise et les techniques qu'il utilise. Il est né à Florence en 1500. Son père, Giovanni Cellini, était musicien et facteur d'instruments. Sa mère s'appelait Maria Elisabetta Granati. Leur premier enfant était une fille. Sa mère, à nouveau enceinte, était certaine d'avoir à nouveau une fille. Quand on montre le nouveau-né au père, il découvre avec plaisir qu'il s'agit d'un garçon et dit « Signore, io ti ringrazio con tutto il cuor mio, questo mi è molto caro, e sia il benvenuto. » « Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, cet enfant m'est très cher, qu'il soit le bienvenu. » Son prénom, Benuto, vient de cette anecdote qu'il rapporte. Son père voulait qu'il devienne un flûtiste émérite, car il montrait des prédispositions pour la flûte et le chant, mais lui ne s'intéressait qu'au dessin. À 15 ans, contre la volonté de son père, il entre comme apprenti dans l'atelier d'un orfèvre de grande expérience, Antonio Di Sandro, surnommé Marcone. Il apprend les bases de son métier en travaillant dans plusieurs ateliers d'orfèvres. Vers 16 ans, vers 1516, il quitte la maison paternelle et se retrouve à Pise, où il est pris en apprentissage par un orfèvre, Olivier de la Chiostra, chez qui il réalise de beaux vases d'or et d'argent. À Florence, il sympathise avec un garçon de son âge, Francesco, qui s'adonnait à l'orfèvrerie et qui était le fils de Filippino Lippi, et donc le petit-fils de Fra Filippo Lippi, le célèbre peintre défroqué. Le travail commun fit naître en nous une telle amitié que nous ne nous quittions plus ni jour ni nuit, dit-il. Il réalise un fermoir d'une ceinture d'homme en argent ornée de bas-reliefs avec des feuillages et des poutis et des masques. Vers l'âge de 19 ans, il part à Rome, où il travaille dans plusieurs ateliers différents. Il en profite pour étudier les vestiges antiques de la ville. Il entre de l'atelier d'Antonio da San Marino, le premier orfèvre de Rome, où il gagne beaucoup d'argent. Il revient à Florence, chez Francesco Salimbene, où il crée une belle ceinture de mariage en argent qui attire l'attention sur son talent. Déjà, il n'hésite pas à se bagarrer, souvent l'épée à la main, pour récupérer l'argent qu'on lui doit ou pour répondre à une injustice. Après une altercation, il doit fuir Florence. Son père vient le trouver avec un garçon de son âge, Piero Giovanni Landi. « Nous nous aimions plus que des frères, » dit-il. Benuto se déguise en moine pour fuir à Sienne, où il arrive pendant la nuit. Il revient à Rome et entre dans un atelier dirigé par Luca Agnolo d'Aiesi. Il réalise des chandeliers richement ornés pour l'évêque espagnol de Salamanque. Il travaille aussi sur un vase pour cet évêque. Son travail commence à être très apprécié et il reçoit de nombreuses commandes. Il a pour aide un jeune garçon engagé comme apprenti. Benvenuto le décrit ainsi. Paolino était le fils d'un citoyen romain qui vivait de ses rentes. De ma vie, je n'avais vu d'enfant plus beau, plus honnête et mieux élevé. Ses manières, son physique, son affection pour moi m'inspirèrent toute la tendresse qu'un cœur d'homme peut contenir. Cet amour dévorant eut une conséquence inattendue. Pour voir plus souvent s'illuminer son merveilleux visage, naturellement réservé et mélancolique, je prenais mon cornet et aussitôt s'épanouissait son sourire, si pur et si séduisant, que je ne m'étonne plus de ce que les Grecs ont raconté au sujet de leur dieu. Si Paolino avait vécu de leur temps, il les aurait sans doute fait complètement sortir de leur gond. Je vais aborder rapidement un aspect de la personnalité de Benvenuto. Il était probablement bisexuel. Il fait allusion à plusieurs relations féminines, mais les descriptions des femmes sont généralement assez succinctes. Il semble manquer de délicatesse à leur égard et les utilise pour son plaisir. En revanche, on ne peut que constater que lorsqu'il décrit le charme physique des jeunes garçons de son entourage, amis, modèles ou apprentis, il est assez lyrique, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir parfois des déconvenues. Il est certain qu'il ne se limitait pas à des relations platoniques avec eux, car il dut faire face à 3 dénonciations pour relations sexuelles avec ses apprentis, qui, semble-t-il, n'étaient pas totalement calomnieuses. Je parle des dénonciations. À son époque, ces accusations pouvaient avoir des conséquences dramatiques. Dans son ouvrage, il n'évoque que l'une de ses affaires, car il ne pouvait s'exprimer librement. À la Renaissance italienne, malgré la condamnation d'Église, des relations entre artistes et leurs jeunes apprentis étaient assez fréquentes. Si les artistes les plus connus sont Michel-Ange et Léonard de Vinci, il y en a eu beaucoup d'autres, tels Verrocchio ou Donatello. En 1523, Giulio di Giuliano de Medici a été élu pape sous le nom de Clément VII. Vous avez sous les yeux un portrait de Sebastiano del Piombo réalisé 3 ans après son élection. à la suite d'un concert devant le pape Clément, Benvenuto est engagé par celui-ci comme musicien et orfèvre. Après 3 mois de travail, il livre le vase d'argent à l'évêque de Salamanque, qui décide de le faire attendre pour le payer autant de temps qu'il a attendu pour recevoir le vase. Cela donne lieu à un affrontement très tumultueux avec l'évêque, dont Benvenuto sort vainqueur. Une grande amitié le lia au gouverneur de Rome, pour qui il réalisa de nombreux ouvrages, dont une grande médaille d'or pour le chapeau. Je vous ai dit qu'on appelait ça une enseigne. Où étaient sculptés l'Eda et son signe. Vous l'avez sous les yeux, cette enseigne se trouve au musée de Vienne, en Autriche. Mais l'homme ne voulut pas le payer au prix estimé. Il conserva cependant la médaille. Benvenuto a souvent dû subir de telles situations. Les hommes riches ou puissants avaient souvent du mal à payer les artistes. Voici un autre exemple de ces médailles d'or que seigneurs et gentilshommes portaient sur leur chapeau. Alors vous avez sous les yeux donc le portrait de Jean Clouet, célèbre portrait qui se trouve au musée du Louvre, représentant François Ier en grand apparat évidemment. Et vous devinez au revers du chapeau, ici, une enseigne. Alors à droite, c'est une enseigne aussi qui a appartenu à, très probablement à François Ier, qui se trouvait à l'exposition au château de Blois au mois de juillet dernier, consacrée à la bibliothèque de François Ier. Alors cette médaille a été réalisée par un orfèvre parisien en 1540, donc c'est un contemporain de Cellini, mais ce n'est pas Cellini. Mais vous voyez, alors c'est une médaille qui fait peut-être 6 ou 7 cm au maximum de large, hein, c'est assez petit. Il y a une foule de détails, ça représente un combat de cavalerie, c'est tout à fait extraordinaire. Alors c'est le genre de médaille que Benvenuto pouvait réaliser. À Rome, Benvenuto continuait à se perfectionner en travaillant dans l'atelier de plusieurs orfèvres considérés comme des maîtres dans leur domaine. Lotizio, qui réalisait des sceaux pour les cardinaux. Caradosso, qui faisait de petites médailles ciselées, des baisers de paix et des Christ en plaques d'or très minces. Amerigo, spécialiste de l'émail. Il passe d'un atelier à l'autre pour acquérir et maîtriser un réel savoir-faire dans les diverses disciplines de son art. Il s'amuse aussi à raconter des anecdotes dans lesquelles il n'hésite pas à égratigner des membres de l'aristocratie ou de l'église. Cellini. Il arriva de la ville un chirurgien fameux, maître Giacomo da Carpi. Le médecin de valeur entreprit de soigner, entre autres, quelques cas désespérés de mal français. Alors, pour les Italiens, c'est le mal français, pour les Français, c'est le mal italien, et c'est bien sûr la syphilis. Ce genre de maladie a une vive prédilection pour les prêtres romains, surtout les plus riches. On se demande bien pourquoi. Par la vertu de certaines fumigations, il montra qu'il savait les guérir complètement et acquit une grande réputation. Il se faisait payer très cher. Le chirurgien en question passa dans l'atelier de Benvenuto et remarqua des dessins de vases. Il lui en commanda 2. Benvenuto ajoute à propos du chirurgien. Il fit bien de quitter Rome, car quelques mois plus tard, tous ceux qui l'avaient soigné retombèrent 100 fois plus malades qu'avant. S'il était resté, on l'aurait tué. Cellini encore. Un jeune homme arriva à Rome, Luigi Pulci, poète de grand talent. Il possédait une grâce incomparable et était outrageusement beau. Il avait quitté le service de je ne sais quel évêque et était rongé de syphilis. La façon dont Benvenuto relate cet épisode peut laisser entendre que le jeune homme était contaminé par l'évêque. Benvenuto ajoute « Je le pris à la maison, le fis soigner et sa jeunesse aidant, il recouvra rapidement la santé. » Cette période prospère prend brutalement fin en mai 1527 lorsque les troupes de Charles Quint, composées de mercenaires, lancent leur assaut contre Rome. Sur le tableau, vous voyez l'assaut des troupes espagnoles avec Charles de Bourbon au premier plan. Nous reparlerons plus tard de Charles de Bourbon, qui était le chef de l'armée espagnole. Benvenuto se réfugie au château Saint-Ange avec le pape Clément. Je vous rappelle que le château Saint-Ange est un ancien mausolée de l'empereur Adrien, reconverti en forteresse papale. C'est à ce moment que Clément VII se laisse pousser la barbe pour marquer son humiliation d'être obligé de se réfugier dans la forteresse pendant que les troupes espagnoles pillent sa capitale. Alors c'est le même pape que celui de tout à l'heure, pas par le même artiste, Sébastiano del Piombo, mais il s'est laissé pousser la barbe parce qu'il est évidemment furieux. Ce tableau a été peint en 1531, il se trouve au Getty à Los Angeles. Alors vous avez une vue aérienne, c'est plus pratique, du château Saint-Ange. Il y avait des douves tout autour des remparts, à l'époque des Chenny, il y avait des douves. Et oui, vous avez ici le Pazzetto. Le Pazzetto, c'est le petit passage qui menait du Vatican au château, qui était utilisé par les papes en cas de coup dur, quand il y avait une révolution ou de l'agitation autour de... C'était pas le Vatican, évidemment, à l'époque, c'était le palais du pape. Le pape et ses courtisans s'enfuyaient, passaient par le Pazzetto, arrivaient ici, et après ils se réfugiaient au sein du château. Le mausolée d'Adrien est en partie conservé, c'est simplement là-bas. Tout le reste a été construit au-dessus par la suite. Et vous voyez que le pape, une fois arrivé là, disposait d'un véritable palais à l'intérieur. Hein. Posté au sommet de la forteresse. Alors, il se mettait au sommet de la forteresse, Benvenuto. Mais il aimait bien cette terrasse-là, devant le palais, parce qu'il avait une vue plongeante et il pouvait s'occuper. Posté au sommet de la forteresse, Benvenuto dit avoir tué d'un coup d'arquebuse le connétable Charles III de Bourbon, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, cousin de François Ier, chef de l'armée impériale espagnole. François Ier n'a pas dû être attristé par cette nouvelle, car c'est ce cousin qui l'avait fait prisonnier à la bataille de Pavie en 1525. Depuis la terrasse qui est au sommet du château, Benvenuto tire sur les assaillants avec diverses pièces d'artillerie. Il tue pas mal de gens, au grand plaisir du pape qui le bénit et lui pardonne tous les homicides qu'il avait déjà commis. Il lui pardonne aussi tous ceux qu'il commettra au service de l'Église apostolique. Rassuré, Benvenuto reprend ses tirs sur les troupes espagnoles. Ils sont ainsi assiégés pendant un mois. Le sac de Rome a été d'une violence extrême, accompagnée de viols et de destructions. De plus, la peste se déclara car les cadavres n'étaient pas enterrés. Rome a ainsi perdu 80% de sa population, entre les trois quarts ou 80% de la population. Ça a été terrible. Clément VII reste reclus au château Saint-Ange jusqu'au mois de juin 1527. Il est contraint de signer avec le prince d'Orange une capitulation au terme de laquelle il s'engage à verser la somme énorme de 400 000 ducats comme indemnité de guerre, payable en plusieurs fois. Le pape demande à Benvenuto de l'aider à sauver les tiares et les magnifiques joyaux du trésor de l'église. Il le charge de dessertir les pierres précieuses et leurs montures en or. Chaque pierre fut enveloppée dans un petit papier et cousue dans les doublures des vêtements du pape. Le pape lui confie aussi tout l'or, 200 livres environ, alors ce sont des livres romains de l'époque, ça correspond à peu près à 68 kilos, et lui demande de le fondre en secret, cet or. Benvenuto a probablement dû garder quelques miettes du trésor qui était passé entre ses mains, ce qui lui attira des ennuis par la suite. Il retourne à Florence, mais comme la peste fait des ravages, il continue vers Mantoue, où il est engagé par l'orfèvre duc. Il rencontre son ami Jules Romain qui travaille au palais du Thé. Le duc Frédéric lui commande un reliquaire pour une ampoule du Saint-Sang, un bien de famille qu'on dit apporté par Longin, le centurion qui, selon la tradition, donna un coup de lance à Jésus sur la croix. De retour à Florence, il apprend que ses parents sont morts de la peste. Il réalise des médailles d'or dont la beauté est saluée par Michel-Ange. Sur la photo, la médaille en or n'est pas de Cellini, alors vous avez le recto et le verso, mais d'un orfèvre parisien contemporain. Vous voyez que l'artiste est parti d'une grosse perle baroque qui constitue le corps d'Hercule, c'est Hercule qui est représenté, qui porte une colonne sur l'épaule, symbole de la force, et qui est coiffé de la peau de lion. On devine la tête de lion sur la tête d'Hercule et les pattes, la peau qui couvre le dos. Oui, le raffinement extrême. Et au verso, l'orfèvre en question a repris le même thème, mais simplement gravé et puis damasquiné ou émaillé. Alors, cette médaille n'est pas de Cellini, encore une fois, mais elle est tout à fait contemporaine de Cellini et de ce que pouvaient faire les orfèvres de son temps. Le pape le rappelle à Rome et lui commande un fermail de forme ronde pour sa chape, sur lequel devait figurer Dieu le Père en demi-relief. Il devait aussi passer un gros diamant et beaucoup d'autres pierres de grande valeur. Le pape admire le modèle en grandeur nature, grandeur réelle, environ 20 cm de diamètre. Benvenuto le décrit. « J'avais placé le diamant en plein centre du bijou. Il servait de siège à Dieu le Père, vu sous un angle si heureux que l'accord avec le reste de la composition était parfait et ne nuisait en rien au diamant. Levant la main, il donne sa bénédiction. Trois petits, les bras levés, soutiennent le diamant. Celui du milieu est en rond-bosse, les deux autres en demi-relief. Tout autour, des angelots en grand nombre se jouent au milieu des pierreries. Dieu est vêtu d'un manteau qui voltige, d'où sortent une myriade de poutis et autres beaux ornements ravissants. Vous voyez, sur un objet qui mesure quand même une vingtaine de centimètres de diamètre, le nombre d'éléments qu'il pouvait ciseler. Ce magnifique bijou en or, serti de pierres précieuses, sera fondu en 1797, dans le cadre du traité de Tolentino, afin de défrayer une partie des indemnités dues par le pape Pie VI à Bonaparte. L'histoire se répète. En 1529, son frère Cecchino, pris dans une échauffourée, est mortellement blessé par un arquebusier. Peu de temps après, Benvenuto tue l'assassin de son frère et lui plante son poignard dans le cou avec une telle violence qu'il n'arrive pas à retirer sa lame. La même année, le pape lui demande de graver des coins pour ses monnaies. Benvenuto obtient la charge de mettre des coins de la monnaie, ce qui lui assure un revenu régulier. Le pape lui commande aussi un calice somptueux. Cependant, Benvenuto craint pour sa vie car les hommes de l'homme qu'il a tué veulent le venger. Il part à Naples, mais peu après, il est rappelé par le cardinal de Médicis. Il lui faut réaliser une médaille à l'effigie du pape Clément. Sur la première version qu'il présente au pape, Benvenuto a représenté, vous voyez d'abord le recto, et voici les deux versions du verso, du revers. Alors, on va commencer par la version de gauche, qui est la première version réalisée par Benvenuto. Il a représenté la paix sous la forme d'une jeune femme, court vêtue de tissu léger, tenant une petite torche avec laquelle elle met le feu à un monceau d'armes liées ensemble en forme de trophée. On voyait aussi sur le mur d'un temple dans lequel se tenait un homme enchaîné, représentant la fureur. Autour, on lisait « Clauguntur belli portae, les portes de la guerre se ferment ». Ça faisait sans doute allusion à la fin de la guerre avec Charles Quint. Mais le pape lui demande une seconde version du revers avec Moïse frappant le rocher. Vous voyez la deuxième version à droite. Benvenuto apporte sa médaille au pape, malade, qui meurt trois jours plus tard, le 25 septembre 1534. Le lendemain, alors que Benvenuto allait se recueillir devant le corps du pape mort, il rencontre Pompeo de Capitanis, accompagné de 10 hommes armés jusqu'aux dents. Ce Pompeo était un joaillier milanais, grand favori du pape Clément, et il avait tenu à plusieurs reprises des propos calomnieux contre Cellini. Pompeo le provoque, mais Benvenuto reste calme. Pompeo part et entre dans une boutique, la boutique d'un apothicaire, où il se vante d'avoir provoqué Benvenuto. Au moment où il sort, Benvenuto se précipite sur lui en le menaçant d'une petite dague. Pompeo détourne la tête, la dague le pique à 2 reprises sous l'oreille, l'homme tombe mort. Benvenuto assure ne pas avoir eu l'intention de le tuer. Heureusement, il est protégé par ses amis et plusieurs cardinaux. Quelques jours plus tard, le cardinal Alessandro Farnese est élu pape sous le nom de Paul III. Vous avez son portrait particien, qui date de 1543, donc une dizaine d'années après son élection. Ce dernier fait savoir à Benvenuto qu'il ne voulait personne d'autre pour faire ses monnaies, et lui fait établir un sauf-conduit pour sa sécurité. Cependant, menacé par des amis de Pompeo, il se sauve à Florence, puis il décide d'aller à Venise accompagné d'un ami sculpteur. Au cours d'une halte à Ferrare, il est mêlé à une bagarre dans l'auberge où il s'est arrêté. Le récit de Benvenuto témoigne de la sécurité qui régnait aussi bien dans certains quartiers des grandes villes que sur les routes. À Venise, il rencontre le sculpteur Sansovino, dont le comportement le déçoit. Son compagnon et lui retournent à Florence. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent dans une bonne auberge. Mais Benvenuto est furieux parce que le patron l'oblige à payer avant de se coucher, ce qui est inhabituel. Le lendemain matin, au moment d'embarquer sur une barque de halage, il s'aperçoit qu'il a oublié ses pantoufles et retourne à l'auberge. Cellini. Je demandai le patron. Il me fit répondre qu'il n'avait rien à foutre avec nous et que nous pouvions aller tirer notre coup au bordel. Je tombai sur un petit morveux de garçon d'écurie à moitié endormi qui me dit « Le patron ne se déplacerait pas même pour le pape, car il est au lit avec une petite fainéante dont il avait grande envie. » Et le garçon réclame un pourboire à Benvenuto qui ajoute « Je bondis jusqu'à la chambre, pris un petit couteau coupant comme un rasoir, et des quatre lits, je réduisis tout en charpie faisant au jugé pour plus de 50 écus de dégâts. » Puis il revient à la barque et file en toute hâte avec ses bagages, ses chevaux et ses compagnons. Appelé à Rome par le pape, il manque d'être arrêté par le Bargello qui abrite le conseil de justice, mais finalement le pape le gracie définitivement pour la mort de Pompeo. Après toutes ces émotions, Benvenuto tombe gravement malade. C'est maître Francesco Furini, le médecin de la cour pontificale, qui conseille des remèdes, mais la situation s'aggrave. Benvenuto délire et on le laisse pour mort, à tel point qu'un de ses amis compose un poème en hommage funèbre. Cependant, il revient à lui et le médecin se décide à agir. Cellini. Il se mit à écrire et m'ordonna fumigation, lavement, pommade, emplâtre et mille remèdes à faire revenir à mort. Je ressuscitais tout à fait avec plus de 20 sangsues au cul et la sensation d'être piqué de partout, ligoté, passé à la moulinette. Beaucoup de mes amis vinrent voir le miracle du mort ressuscité. Il lui faut plusieurs mois pour se remettre de sa maladie. Le cardinal Cornaro l'invite à aller se reposer dans l'une de ses propriétés. Cellini. À peine arrivé, je commençais à vomir et éjectais de mon estomac un verre velu long d'un quart de brasse, à peu près 15 cm. Avec ses longs poils, ses taches de différentes couleurs, vertes, noires et rouges, il était terrible. On le conserva pour le médecin, qui affirma n'avoir jamais vu un monstre pareil. En 1537, le duc Alessandro de Médici est assassiné par son cousin Lorenzino, que nous connaissons sous le nom de Lorenzaccio, lequel était probablement son amant. Vous avez sous les yeux un tableau de Vasari qui se trouvait à la très belle exposition qui s'est tenue au musée Jacques-Marandré il y a encore quelques semaines, quelques mois, qui était très belle, représentant Alessandro en armure, ce qui n'est pas innocent de sa part, et avec le regard dominateur sur Florence. Et à droite, une médaille que Cellini a réalisée pour lui. Comte premier, ou Cosimo, je l'appellerai tantôt Comte, tantôt Cosimo, fut alors choisi comme nouveau duc de la ville. Ah, je ne vous ai pas montré les... Pardon, les médailles. J'ai oublié de tourner la page. Donc voilà la médaille réalisée par Cellini. Le pape Paul III lui demanda de réaliser une reliure d'or massif, ciselée et ornée de nombreux joyaux, pour un office de la Vierge merveilleusement enluminé. Cet ouvrage devait être offert à Charles Quint parmi d'autres présents. Benvenuto accueille dans son atelier un jeune apprenti appelé Ascanio de Mari. Cellini. Il savait tant de choses qu'il paraissait invraisemblable qu'il n'eût que 13 ans comme il l'affirmait. En quelques mois, il se rempluma et sortit de son état maladif, devint le plus beau garçon de Rome. C'était un excellent serviteur et un merveilleux apprenti. Je l'aimais comme un fils et l'habillais de même. À propos d'Ascanio, Alexandre Dumas en fera les héros de son roman « Ascanio, l'orfèvre du roi », publié en 1843. Benvenuto décide de partir pour la France, accompagné d'Ascanio et d'un apprenti pérugin. Originaire de Perugia, évidemment. À Padoue, il est accueilli par Pietro Bembo, poète vénitien et humaniste, pas encore cardinal, qui lui commande son portrait sur une médaille avec au revers un Pégase. Pour le remercier, Bembo lui offre 3 chevaux pour son voyage. Benvenuto et ses apprentis traversent la Suisse et arrivent à Paris. Le premier séjour de Benvenuto en France en 1537 n'est guère fructueux. Il rencontre le peintre Rosso Fiorentino qui se montre très ingrat à son égard et tente de l'empêcher de voir le roi. Il y avait toujours des rivalités entre les artistes. François Ier l'accueille bien, mais il s'apprête à partir en guerre et a d'autres préoccupations en tête. Toutefois, Benvenuto prend le temps de réaliser une médaille à l'effigie du roi. Celle-ci aura un destin particulier. Donc, vous avez donc la médaille en haut à droite, réalisée par Cennini. En effet, Pietro Aretino, l'Aretin, poète et écrivain satirique italien, était le correspondant de François Ier en matière artistique. Au nom de ce dernier, il commanda au Titien, son ami, un portrait du roi. Comme le peintre n'envisageait pas de faire le voyage en France, on lui remit la médaille de Cellini. Cela expliquerait la représentation de profil, pose archaïque que Titien voulait précisément éviter. De même, les mains, détails expressifs que le maître cherchait ordinairement à privilégier, sont peu visibles en l'absence du modèle vivant. Donc ce célèbre portrait de Titien représentant François Ier, qui se trouve lui aussi au Louvre, aurait été réalisé d'après la médaille de Cennini. Benvenuto accompagne le roi jusqu'à Lyon, lui et Ascanio tombent malades et il décide de rentrer en Italie, à Ferrare, puis à Rome. L'apprenti pérugien qui l'avait suivi au cours de son voyage refuse de rembourser ses dettes et le quitte. À Rome, Benvenuto ouvre un atelier et travaille pour Hippolyte II d'Este, cardinal de Ferrare, et reçoit des commandes. Benvenuto apprend que l'apprenti pérugien qu'il avait renvoyé est allé le dénoncer en disant qu'il avait volé de nombreux joyaux appartenant à l'Église quand il était assiégé au château Saint-Ange. Il est accusé d'avoir volé l'équivalent de 80 000 ducats, la plus grande partie en joyaux. Benvenuto est emprisonné. Or, selon Cellini, après vérification des inventaires, il ne manquait rien en ce qui concerne les pierres précieuses. Cependant, il ne fut pas libéré. Le roi de France, qui a pris le sort de Benvenuto, intervient auprès du pape pour le faire libérer, afin qu'il puisse se rendre en France, sans succès. Alors, Benvenuto décide de s'évader du château Saint-Ange. Mais, en descendant le mur d'enceinte à l'aide de draps, il se casse une jambe. Il est recueilli par le cardinal Cornaro. Le pape Paul III était prêt à lui pardonner, mais Pier Luigi Farnese, son fils légitimé, qui était un ennemi de Benvenuto, le calomnie et Benvenuto est à nouveau arrêté et conduit à Tor di Nona, la prison des condamnés à mort. Cette prison du pape était située en face du château Saint-Ange, sur l'autre rive du Tibre. Caravage y sera enfermé en 1604. Ce pire Luigi, le fils du pape, était un sinistre individu. C'était un condottiere qui se signala par sa grande cruauté. En 1527, il était au service de Charles Quint et participa au sac de Rome. Il a été excommunié par Clément VII et parmi ses nombreux méfaits, on relate le viol d'un jeune évêque. Benvenuto est sur le point d'être exécuté quand la femme de Pierluigi intervient auprès du pape qui accepte d'annuler l'exécution. Mais Benvenuto est à nouveau incarcéré au château Saint-Ange avec sa jambe cassée dans une cellule infecte et des conditions très dures. Pendant 4 mois, il survit en chantant des psaumes, en récitant des oraisons et des prières. Il a des hallucinations, il voit le Christ en croix, la Vierge et Saint-Pierre. Je passe sur les détails du récit de son incarcération. Finalement, sur l'insistance du cardinal de Ferrare, qui était un proche de François Ier, le pape accepte de le libérer, car le roi de France le réclame auprès de lui. Benvenuto reprend des forces dans le palais du cardinal, il retrouve son élève Ascanio et se remet au travail. Il entreprend un bassin d'argent et une aiguière pour le cardinal, ainsi que son sceau personnel, sur lequel il représente la prédication de Saint Jean dans le désert et Saint Ambroise à cheval chassant les Ariens. C'est le sceau qui est à gauche, en or et blanc. Donc dans la partie gauche, vous voyez Saint Ambroise à cheval, et dans la partie droite, Saint Jean dans le désert. On voit bien Saint Jean là, et puis le cardinal à cheval. Saint Ambroise, pardon. Et à droite, c'est un autre sceau, celui du cardinal Innocenzo Cibo, sur lequel on voit une Vierge à l'enfant dans une nef accompagnée de 2 anges. Voici une étude pour le sceau de l'Accademia del Designo de Florence. C'est un dessin à la plume qui se trouve au British Museum. Le Louvre possède une autre version de ce dessin. Le dessin est à gauche sur un parchemin. Il représente la nature sous l'aspect de l'Artémis d'Éphèse. On est toujours à gauche. Hein, à l'intérieur d'un losange. Une figure féminine ailée, flanquée d'un lion, emblème de Florence. Ici, à droite. Et d'un serpent, l'emblème du duc Cosimo. À ses pieds, l'alphabet composé des arts. À chaque lettre correspond à un outil utilisé par les artistes, qu'ils soient architectes, peintres ou sculpteurs. Et à droite, vous avez une copie romaine de l'Artémis d'Éphèse. Alors c'est une copie réduite, certainement. Statue de la déesse qui se trouvait dans le temple d'Artémis, une des sept merveilles du monde, dont il ne reste malheureusement plus qu'une pauvre colonne. Dès l'Antiquité, Artémis et Isis sont volontairement confondus pour personnifier la générosité et la fécondité de la nature, ce qui au premier regard pourrait ressembler à de multiples saints, serait en réalité des testicules de taureau, qui est aussi un symbole de fécondité. Il réalise aussi le modèle en cire d'une salière que le cardinal trouve si belle qu'il la juge digne d'un roi. Il s'agit d'un modèle en cire, simplement. Le cardinal ne croyait pas si bien dire. On reparlera de cette salière. Il part vers la France avec deux apprentis, Ascanio et Paolo Romani, dans la véritable caravane qui accompagne le cardinal de Ferrare. Le voyage est ponctué de quelques incidents, comme d'habitude. Il s'agit de la porte Camolia à Sienne. Arrivé à Sienne, il loue une jument pour aller voir un ami. Il renvoie la jument en oubliant de retirer la selle et les étriers qui lui appartiennent. Quand il veut les récupérer, le maître de poste refuse de les lui rendre sous un prétexte fallacieux. Chenin. Le maître de poste se répandit en violents blasphèmes. Il abaissa son esponton, c'est une pique, jurant qu'il allait me tuer à tout prix. Devant cette résolution, pour le faire reculer un peu, je fais le geste de lui présenter la gueule de mon arquebuse. C'est l'ancêtre du fusil, l'arquebuse. Encore plus furieux, il se jette sur moi. J'avais mon arquebuse en main, prêt à me défendre, mais elle était encore pointée vers le ciel. Et voilà qu'elle part toute seule. La balle frappe l'arc de la porte Camolia, ricoche et atteint à la gorge le maître de poste qui tombe mort. Le coup de feu est suivi d'une bagarre générale. Benvenuto et ses amis s'enfuient et se réfugient à Ferrare. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Benvenuto tue quelqu'un, il ne le fait pas toujours exprès. De toute façon, il valait mieux éviter d'avoir une altercation avec lui, car il était assez susceptible et savait jouer de l'épée, de la dague, aussi bien que de l'arquebuse. Enfin, ils reprennent leur route vers la France et trouvent la cour royale à Fontainebleau. Nous sommes en 1540. Le roi lui commande une série de 12 statues d'argent, 6 dieux et 6 déesses, de grandeur nature, qui devaient servir de porte-flambeaux autour des tables. Benvenuto part pour Paris pour chercher un atelier. Il présente 4 modèles de cire au roi, Jupiter, Junon, Apollon et Vulcain. Le roi lui demande de commencer par le Jupiter. Alors, le Jupiter, vous l'avez sous les yeux, mais il ne s'agit pas, évidemment, de l'original. Il s'agit d'une version en bronze, de format réduit, faite à partir de l'original, qui n'existe plus. Je vous raconterai ce qu'il est devenu. Et à droite, il s'agit de Junon, avec un dessin préparatoire de Cellini, et le format réduit en bronze, qui a été probablement fondu à l'époque de Cellini, mais l'original, lui, n'a pas été réalisé, la version en argent grandeur nature. Le roi lui propose d'installer son atelier dans le Petit Nesle. La tour et la porte de Nesle, ainsi que les bâtiments adossés aux remparts reliant les deux, étaient appelés le Petit Nesle. Ces bâtiments étaient situés en face du Louvre où résidait le roi quand il était à Paris. La célèbre tour de Nesle terminait l'enceinte de Philippe Auguste sur la rive gauche de la Seine. Il ne reste rien de l'hôtel de Nesle, ni du Petit Nesle. Au XVIIe siècle, l'Institut de France a été édifié à cet emplacement. Alors, ici, c'est la Seine. Là, c'est la Douve qui passait au pied de l'enceinte de Philippe Auguste sur la rive gauche. Et voici ce qu'on appelait le Petit Nesle, à savoir la porte fortifiée qui était au niveau du Petit Pont, le mur reliant la tour de Nesle et la porte au dos duquel se trouvaient des bâtiments adossés. Voilà. Alors c'est tout ceci qui a été attribué par le roi à Chelini. Vous voyez une vue différente. Voilà l'hôtel de Nesle, qui lui aussi a disparu, évidemment, cette grande famille, la famille de Nesle. Et le petit Nesle avec la porte fortifiée, le mur avec les bâtiments adossés et la tour de Nesle. Et vous voyez l'ensemble ici à droite également avec la porte, le mur et la tour. Il ne reste rien de cela. Le cardinal de Ferrare avait offert au roi les guerres et le bassin réalisé par Benvenuto. Alors, vous avez sous les yeux, c'est un document que j'ai trouvé, mais alors je ne peux pas du tout vous affirmer l'exactitude. Il y a marqué « vase d'argent » par Benvenuto Cellini. Je ne sais pas d'où vient ce document. En tout cas, disons que c'est le genre de vase que réalisait Cellini. Il passait plusieurs mois pour réaliser de tels objets en argent massif. C'est un travail extraordinairement fouillé, délicat, avec de nombreux détails, comme c'était le goût à l'époque. Le cardinal de Ferrare donc avait offert au roi les guerres et le bassin réalisé par Benvenuto. Le roi lui demande une salière pour compléter l'ensemble. Les salières étaient un ornement destiné aux tables des riches pour contenir le sel, précieux condiment. Benvenuto lui montre le modèle en cire de la salière qu'il avait conçue pour le cardinal. Évidemment, ce dernier n'apprécie pas beaucoup. Le roi est enthousiasmé et lui remet 1000 écus d'or pour réaliser la salière. Des pièces d'or, hein. Alors qu'il se rendait de nuit au petit Nesle avec l'or, il est attaqué par 4 hommes. Il s'en sort à la pointe de l'épée et arrivé près de chez lui, il appelle ses apprentis à l'aide. Cette attaque aurait été organisée par le trésorier qui lui avait remis l'or et ses serviteurs qui savaient que Benvenuto devait rentrer seul de nuit avec cette grosse quantité d'or sur lui. La confiance régnait. Le roi lui fait parvenir ses lettres de naturalisation et le fait seigneur du petit Nesle. Il en est le propriétaire et il est naturalisé français. Le roi lui rend visite et paraît satisfait de l'avancement des travaux pour le Jupiter. Alors c'est un tableau de François Griset de 1845 qui montre le roi venu admirer. Alors on ne sait pas ici, c'est au 19e siècle, les peintres imaginaient beaucoup de choses. On ne sait pas s'il s'agit du modèle en cire, grandeur nature, ou de la réalisation en argent. Mais le roi est admiratif et il est accompagné toujours de sa maîtresse, la duchesse des Temples. Le roi lui demande de penser à un projet pour Fontainebleau. Il veut une figure représentant la fontaine de Bliot. Un mois et demi plus tard, Benvenuto lui présente un projet pour orner la porte dorée du château. Alors ce sont des photos contemporaines évidemment, et cette porte, ce qu'on appelle la porte dorée, c'était l'entrée principale du château. Maintenant l'entrée principale se trouve du côté de la cour des adieux, hein, voilà, c'est depuis Napoléon Bonaparte d'ailleurs, pas avant. L'entrée principale du château à l'époque de François Ier était celle-ci, donc c'était l'entrée monumentale. Il n'y avait pas le bâtiment gauche, et à droite il n'y avait pas encore la salle de bal édifiée sur Henri II. Et voici donc la porte dorée, ce qui va me permettre de vous expliquer un peu le projet de Cellini. Il n'était pas satisfait de cet emplacement, d'ailleurs, enfin bon, une commande du roi ne se refuse pas. Donc, dans ce demi-cercle, il réalisera la nymphe de Fontainebleau, que l'on va voir. Tout était en bronze, évidemment. Dans les écoinçons, ici, à gauche et à droite, il y avait des victoires tenant des torches. Et à la place des colonnes, il avait prévu 2 satyres en bronze de grande taille, évidemment. Le tympan en demi-cercle, là, mesure 2 mètres sur 4. Voilà. Il reprend l'iconographie d'une fresque de Rosso Fiorentino située au centre de la galerie François Ier du château de Fontainebleau. Elle illustre la légende qui donna son nom à Fontainebleau. Au cours d'une chasse, un chien de la meute royale, nommé Bliot, s'égara. Il fut retrouvé auprès d'une source inconnue au milieu de la forêt, où il se rafraîchissait. Cette source fut appelée la fontaine de Bliot, du nom du chien, et ça s'est déformé en Fontainebleau. C'est l'une des hypothèses. Description de Cellini. Une femme allongée dans une belle attitude, posant son bras droit sur le cou d'un cerf, un des emblèmes du roi. D'un côté, j'avais modelé un demi-relief de faon, de sanglier et d'autres animaux en relief réduit. De l'autre, des braques et des lévriers de différentes races. Tous ces animaux rappelaient la magnifique forêt où naît la source. Dans les écoinçons, deux victoires en bas-relief tenaient des torches pareilles à celles de l'usage antique. Alors, il est évident que la nymphe est influencée par le maniérisme qui régnait alors chez les artistes italiens qui travaillaient au château de Fontainebleau et qui constituait ce qu'on a appelé plus tard la première école de Fontainebleau avec Rosso Fiorentino, le Primatis et Niccolò dell'Abate, qui sont les plus célèbres peintres. Et Stücker aussi, enfin, il s'occupait de la décoration. Benvenuto a embauché de nombreux ouvriers pour l'aider dans son travail en sculpture comme en orfèvrerie. Il engage un jeune Romain, Paolo, pour tenir ses comptes. Il lui demande aussi de surveiller une certaine Catherine qu'il utilise comme modèle et pour ses plaisirs. Paolo lui assure qu'il peut avoir confiance en lui. Mais un jour de fête, pris d'un doute, Benvenuto revient chez lui plutôt que prévu. Cellini. J'ai trouvé Paolo et cette putain de Catherine presque en train de pêcher. À mon arrivée, la mère de Catherine, une vraie maquerelle française, se mit à crier de toutes ses forces. Paolo, Catherine, voilà le patron! Je les vis arriver tous deux épouvantés, tout ébouriffés, ne sachant ce qu'ils disaient ni où ils allaient. On voyait bien qu'ils avaient pêché. Il veut d'abord embrocher le garçon, puis il se calme et chasse la mère et la fille à coups de pied et de poing. La mère tentera de se venger en lançant une accusation calomnieuse contre lui. Benvenuto utilisera cependant Catherine comme modèle pour la nymphe, non sans l'avoir préalablement rouée de coups pour avoir fait un faux témoignage. Le résultat de la fonte du bronze de la nymphe le satisfait entièrement. Alors je vous montre quelques détails de ce bronze qui se trouve au Louvre maintenant, évidemment. C'est l'original de Cellini. Voilà, le corps de la nymphe qui est très étiré, comme ce qu'on appelle le maniérisme italien, hein, c'est l'influence du maniérisme italien. Des faons et des sangliers qui se trouvent dans la partie gauche, et avec une vue plus rapprochée, vous voyez qu'ils traitent différemment les pelages des animaux. Et à droite, l'urne renversée qui symbolise la source de Fontainebleau. On parle de fontaine, mais en fait, c'était une source inconnue, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez que le travail de près, c'est un travail d'orfèvre, c'est extrêmement bien ciselé, finement ciselé. Donc voici, alors la nymphe, c'est le premier grand bronze de l'artiste, hein, il a été fondu en 5 morceaux séparés, remontés ensemble. Il a utilisé le procédé de la fonte à la cire perdue. Ce n'est pas lui qui a fondu les éléments de la nymphe, mais les ouvriers qui travaillaient pour le Primatis à Fontainebleau. Alors, le projet était complété, comme je vous l'ai dit, par deux victoires et deux satyres. Alors voilà, j'ai eu du mal à reconstituer un peu l'histoire. Ce sont des moulages qui se trouvent au Louvre. Des moulages, des bronzes, mais les bronzes n'existent plus. Alors c'est quand même très important, parce que à partir de ces moulages en plâtre, des bronzes de Cellini, on a pu refaire ce que l'on verra au château d'Annette tout à l'heure. Et puis, donc, ça veut dire qu'il y a eu des bronzes, mais les bronzes ont certainement été fondus, évidemment. Le bronze était un matériau extrêmement recherché, et quand, à la mort du roi, la porte n'était toujours pas montée, et puis après, ils avaient besoin de bronze, donc ils ont dû fondre les bronzes de Cellini, ainsi que les deux satyres. Alors, à gauche, vous avez le dessin préparatoire de Cellini, que l'on connaît, et à droite, deux versions réduites d'une soixantaine de centimètres. Celui de gauche se trouve au Getty à Los Angeles et celui de droite dans les collections de la reine d'Angleterre. Mais au moins on a des documents donnant une idée de ces deux bronzes, de ces deux satyres. Alors, les deux statues en forme de cariatide devaient remplacer les colonnes. Ces satyres sont mentionnés dans un état des bronzes du château de Fontainebleau, mais on ignore ce qu'ils sont devenus. Eux aussi, ils ont certainement été fondus, donc il n'y a que la nymphe qui a survécu dans cette histoire. Cellini quittera Paris en 1545 sans avoir achevé la porte de bronze, parce que j'ai oublié de vous dire, mais on va le voir ici, que la clé de voûte de l'arc qui surmonte la nymphe devait être ornée d'un emblème représentant le roi François Ier, c'est-à-dire la salamandre. Voilà. Tout cet ensemble était prévu, mais n'a jamais été réalisé. Donc la nymphe, solennellement conservée, ne fut jamais placée sur la porte dorée à Fontainebleau. Elle sera donnée par Henri II à Diane de Poitiers, qui l'installera sur le portail d'entrée du château d'Annette. À la Révolution, elle fut transportée au Louvre, où elle se trouve toujours. Mais au château d'Annette, on a fait des moulages, et on a pu faire les décoinçons à partir des moulages en plâtre qui se trouvent au musée du Louvre. Voilà, c'est intéressant. Alors, je vous montre encore un document. Ce document, j'ai eu un mal fou à le trouver. J'ai réussi à l'obtenir que mercredi dernier, vous voyez, c'est tout frais, hein, et Claude a accepté de l'insérer. Ils ont pu se nettoyer, recadrer, bon. Mais je désespérais depuis des mois de trouver ce document. Je l'ai entreaperçu une fois sur Internet, impossible à copier. J'ai dû faire une démarche auprès de la médiathèque, auprès d'un ami auprès de Bordeaux qui n'a pas pu l'obtenir. Finalement, la médiathèque a obtenu une image numérique et me l'a transmise. Enfin bon, je croyais que je n'allais pas réussir à l'obtenir. Et qui est quand même très très important, parce que le monsieur responsable, Jacques Moulin, de cette reconstitution, a fait un travail en replaçant, en resituant tous les éléments de la porte tels que Chalini l'avait envisagé. Voilà. C'est très beau. C'est très intéressant, en tout cas. Benvenuto montre aussi au roi un projet de grande fontaine monumentale entourée d'élégants escaliers et surmontée d'une figure d'homme nu de 54 pieds de haut, environ 18 mètres, représentant le roi en dieu Mars, entouré d'autres figures allégoriques. En voyant ce projet, le roi s'écrie « J'ai vraiment trouvé un homme selon mon cœur ». Mais Madame Détente, la maîtresse du roi, est furieuse d'avoir été tenue à l'écart. Benvenuto tente d'apaiser sa colère en lui offrant un petit vase que la duchesse refuse. Elle tentera souvent de discréditer Benvenuto auprès du roi. Il a aussi un violent conflit avec le primatiste qui tente de lui ravir la commande de la sculpture du dieu Mars. De toute façon, elle n'a pas été réalisée. Alors vous voyez sur ce tableau de Jean-François Brémond, François Ier et la duchesse d'Étampes dans l'atelier de Benvenuto, c'est un tableau de 1834. On voit la scène que je viens de vous décrire, avec Benvenuto qui tente d'offrir un vase à la duchesse, qui le refuse, voilà, et ça crée un nouveau scandale à la cour. En 1543, Benvenuto termine la salière avec l'aide de ses ouvriers et la présente au roi, Cellini. Alors c'est une description de Cellini. L'océan est à droite, c'est Neptune, le dieu de la mer, et la terre, à gauche, Cybèle, déesse de la terre, était assis, les jambes entrelacées, par allusion au golfe qui pénètre dans la terre et au cap qui s'avance dans la mer. Cela donnait une attitude fort gracieuse. Dans la main droite de l'océan, j'avais placé un trident et une nef d'un travail exquis destinée à contenir le sel. Je montre la nef en question, c'est une petite barre, c'est en or massif, hein, tout ça évidemment. Hein. Alors symboliquement, le fait que les jambes de Cybèle et de Neptune s'entrecroisent fait allusion au mélange de la terre et de la mer d'où naît le sel. Vous voyez ce travail de détail qui est assez étonnant quand même. Au-dessous de cette figure, il s'agit de la figure de Neptune, il y avait quatre chevaux marins, vous voyez les têtes des chevaux, mais les chevaux marins, qui n'avaient du cheval que la tête, le poitrail et les pattes antérieures, le reste se terminant en queue de poisson joliment entremêlée. Vous voyez les queues des chevaux marins avec l'or émaillé autour. L'océan dominateur était entouré d'une foule de poissons et d'animaux marins, des vagues figuraient les flots remarquablement émaillés à la couleur de l'eau. J'avais donné à la terre, si belle, l'apparence d'une femme superbe, entièrement nue, comme l'océan qui lui faisait face. Elle tenait de la main droite un petit temple ionique, délicatement travaillé, destiné à contenir le poivre. Sous la déesse se trouvaient les plus beaux animaux de la terre. Les rochers sur lesquels elle reposait étaient en partie émaillés, en partie laissés en or. Alors, le petit nu qui est sur le temple, c'est une citation de l'aurore de Michel-Ange installée sur le tombeau de Laurent de Médicis, duc d'Urbino, dans la nouvelle sacristie de la basilique San Lorenzo de Florence. Donc je vous ai montré en réduction, hein, elle est plus grande que nature en réalité, l'aurore de Michel-Ange. Vous voyez qu'il s'est manifestement inspiré, ce n'est pas le seul élément dont il s'est inspiré d'ailleurs. J'avais placé ce groupe sur un socle d'ébène noire d'une épaisseur suffisante pour que je puisse y ménager une gorge décorée de compartiments et de quatre figures d'or en relief représentant la nuit, le jour, le crépuscule et l'aurore. Alors vous avez le jour sous les yeux. Les quatre moments de la journée sont aussi inspirés des sculptures de Michel-Ange qui ornent les tombeaux des deux Médicis. La nuit et le jour ornent le tombeau de Julien, duc de Nemours. Le crépuscule et l'aurore ornent celui de Laurent. Entre ces figures s'intercalaient quatre têtes de même grandeur, images des quatre vents principaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, en partie émaillées et ciselées avec tout le soin imaginable. Quand je mis cet ouvrage sous les yeux du roi, il poussa un cri d'étonnement et ne pouvait se rassasier de le contempler. On peut signaler un autre élément symbolique. Cybèle, la déesse de la terre, est assise sur un éléphant. Vous voyez ici à droite, vous devinez la tête de l'éléphant, avec les yeux, la défense et la trompe qui est repliée. L'éléphant est un animal allégorique qui symbolise les qualités royales. C'est un rappel de celui de la galerie François Ier, peint par Rosso Fiorentino, qui porte une salamandre sur le front, des fleurs de lys et un F sur le caparaçon. L'éléphant est un symbole de force, de sagacité et de pérennité de la personne royale. La salière réalisée pour le roi François Ier a été offerte en 1570 par le roi Charles IX à l'archiduc Ferdinand de Tyrol pour le remercier de l'avoir représenté lors de son mariage par procuration avec Élisabeth d'Autriche. La salière entra alors dans les collections d'art des Habsbourg. Ainsi, elle a échappé aux fonds françaises et se trouve maintenant conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Vous vous souvenez peut-être d'un élément survenu en 2003. Dans la nuit du 11 au 12 mai, la salière de François Ier a été volée. La vitrine était assez peu sécurisée. Cet objet célébrissime étant invendable, tout le monde craignait que le voleur l'eût fondu. Mais peu après, la diffusion par la police d'images prises par des caméras de sécurité qui avaient permis de l'identifier, le voleur s'est rendu aux policiers. En janvier 2006, il les a conduits sur le lieu où il avait caché la salière. Elle a été retrouvée en bon état dans une caisse en plomb, enfouie dans un bois, à 90 km au nord de Vienne. Vous voyez le moment où les policiers sortent la caisse en plomb contenant la salière. Personne n'y croyait plus. Le 22 janvier 2006, la ministre de la Culture autrichienne remet la salière au directeur général du Kunsthistorisches Museum de Vienne. La salière de Cellini est actuellement assurée pour une valeur d'environ 60 millions d'euros et le système de sécurité a été renforcé. En 1543, le Jupiter d'argent est presque fini et la porte est bien avancée. Le roi va régulièrement voir l'avancement des travaux. Benvenuto continue d'avoir des démêlés avec la duchesse des Temples qui le déteste. Vous voyez une visite du roi au Petinel. On voit bien l'aspect de forteresse de l'atelier de Cellini, avec la duchesse des Temples aux côtés du roi. Son Jupiter terminé, il le présente à Fontainebleau dans la galerie François Ier. Dans sa main droite, il tient un foudre comme s'il voulait le lancer, et dans sa gauche, le globe terrestre. Le roi l'admire. 20 ans plus tard, à l'époque des guerres de religion, les fontes d'argenterie ont fait disparaître cet impressionnant candélabre, aussi grand que le roi, qui mesurait 1,98 m. En 1545, Benvenuto, soumis à des intrigues, tombe en disgrâce, surtout à cause de la terrible duchesse. Il demande à repartir en Italie. Il part avec un serviteur, Leonardo, et un petit valet français. Peu avant d'arriver à Lyon, ils sont surpris par un gros orage de grêle. Après chaque coup de tonnerre, le ciel retentissait de manière si profonde, si épouvantable, que je croyais arriver le jour du jugement. Je m'arrêtai. Il commença à grêler sans la moindre petite goutte d'eau, des grêlons plus gros que des balles de sarbacane. Ceux qui me tombaient dessus me faisaient très mal. Peu à peu, ils grossirent et devinrent comme des balles d'arbalète. Je vis que mon cheval s'effrayait beaucoup. Je tournai bride et au triple galop, allai retrouver mes compagnons, eux aussi en proie à la terreur. Les grêlons devenaient de gros citrons. J'entonnai le miserere. Au milieu de mon pieu tête-à-tête avec Dieu, un énorme grêlon fracassa une des grosses branches du pin où je me croyais à l'abri. Un autre atterrit sur la tête de mon cheval qui faillit tomber. Un autre encore me frappa, mais non en plein, car il m'eût tué. Voyant que les branches ne suffisaient plus à nous protéger et qu'il fallait faire autre chose que chanter le miserere, j'entassai en hâte mes habits sur ma tête et lançai à Leonardo qui appelait au secours « Jésus, Jésus, hein, aide-toi, le ciel t'aidera !» J'eus plus de mal à le tirer de là que moi-même. L'orage de grêle dura longtemps, quand il cessa, nous étions tous brisés. De retour à Florence en août 1545, il rencontre comme premier de Médicis, qui l'accueille chaleureusement et lui demande de travailler pour lui. Alors vous avez deux portraits de Branzino qui se trouvaient à cette belle exposition dont je vous ai déjà parlé, qui est située à Jacques Marandré, consacrée au portrait à la cour des Médicis. Alors évidemment, à droite, c'est Cosimo en armure, et à gauche, Éléonore de Tolède, qui était la fille du roi de Naples et qui, au départ, considérait cette union avec Cosimo comme une mésalliance. Mais finalement, ils étaient mécènes tous les deux, je crois qu'ils sont assez bien entendus par la suite. Benvenuto lui dit qu'il entreprendrait volontiers une grande statue de marbre ou de bronze pour mettre sur la place du Grand-Duc. La place du Grand-Duc, c'est l'actuelle Piazza della Signoria, déjà ornée par le David de Michel-Ange. Le duc lui demande de faire un Persée, personnage mythologique de la Grèce antique. Je vous rappelle que Persée devait tuer Méduse, la seule des trois gorgones qui était mortelle. Il trouva Méduse endormie, il regarda son reflet dans son bouclier poli et lui trancha la gorge. Plusieurs thèmes sont juxtaposés dans ce mythe, les exploits d'un héros, le triomphe sur le mal et bien d'autres. Mais par cette commande, comme premier voulait marquer la loggia dei Lanzi de son empreinte, il avait demandé que la tête de Méduse soit brandie dans les airs par Persée, pose destinée à illustrer le triomphe du bien et de la vertu. Mais plus subtilement, le duc cherchait à symboliser la victoire des Médicis sur les républicains de Florence qui les avaient expulsés de la ville en 1494. Ce travail du Persée a nécessité près de 9 années de travail, la préparation, la fonte, etc. C'est un travail considérable. Cellini innove en représentant Persée piétinant le corps de Méduse. Le défi était de taille. En raison des éléments trop fragiles pour les sculpter dans le marbre, Cellini décide de recourir au bronze en dépit de la hauteur projetée de 6 mètres. La technique de fonte des bronzes de grande taille était cependant perdue depuis l'Antiquité. Des bronzes équestres comme le Marc Aurèle étaient devenus des énigmes techniques. Aussi, pour faciliter la réalisation ainsi que pour des raisons esthétiques, il décide de couper en deux la hauteur totale de la statue. Du pied droit de Persée à la tête de Méduse, la hauteur retenue est de 3,20 m, le reste étant dédié à un socle en marbre de 3 mètres de haut pour la statue. Cellini s'impose également le défi très ambitieux de couler la statue en un seul bloc, pour être certain d'avoir la même qualité, la même couleur de bronze sur l'ensemble de la statue. De plus, comme elle devait être placée sous une arcade et non dos à un mur, comme le David de Michel-Ange, par exemple, il devait s'assurer que la statue soit harmonieuse de tous les points de vue possibles. Enfin, il désirait enrichir le thème de Persée en apposant sur le socle des éléments rappelant divers aspects du mythe. Quelques semaines plus tard, Benvenuto présente au duc un modèle de 60 cm. Le duc achète une maison pour le sculpteur qui construit les ateliers qui lui sont nécessaires. Cellini va d'abord s'attaquer à Méduse, puis à Persée lui-même, enfin au socle de marbre et aux autres éléments en bronze qui vont l'orner. Pour parvenir à couler la statue d'un seul tenant, il recourt au procédé de la fonte à la cire perdue. Je vous décrirai le procédé plus loin. Il commencera donc par la figure de Méduse. Il a du mal à recruter des ouvriers qualifiés, d'autant que Baccio Bandinelli, un sculpteur rival, favori de Comte Ier de la Duchesse, lui met des bâtons dans les roues. Sancho, l'un de ses apprentis, était fort beau. C'était le fils de Gambetta, une prostituée. Le majordome du duc, qui était l'amant de Gambetta, chercha aussi à nuire à Cellini. Il alla trouver Gambetta, la mère de mon apprenti Sancho, et à eux deux, le coquin de pédant et la putain de rien, ils s'entendirent pour me causer une frousse capable de me faire filer au loin. La mère l'accuse d'avoir eu des relations sexuelles avec son fils et elle le fait chanter. Benvenuto se défend, jette la mère et son fils dehors, mais il juge bon de partir à Venise où il rencontre le peintre Titien. Après avoir écrit au duc, il revient à Florence. Il modèle aussi le buste du duc plus grand que nature. Avant le percer, Benvenuto coule le buste du duc en bronze. Il veut s'assurer que les matériaux et la technique de fonte qu'il veut utiliser lui permettront de réaliser le percé sans trop de problèmes. Je vous montre des détails de ce buste. Vous voyez la très belle tête et un détail de l'armure qui est un véritable travail d'orfèvrerie. Comme il doit faire tenir le corps de Méduse sur un socle étroit, il choisit de le disposer sur un bouclier et sur un coussin. Le coussin rappelle le lit où Méduse fut surprise par Persée dans son sommeil. Le bouclier évoque celui qu'Athéna avait confié à Persée pour lui permettre d'approcher Méduse sans être pétrifié. Alors, j'ai eu un mal fou à comprendre ce détail parce que je ne voyais pas où pouvait être le bouclier. Je pensais que le bouclier était dessous, j'avais beau chercher des photos, et je ne voyais absolument pas ce bouclier, je voyais bien le coussin qui est recouvert lui-même d'un tissu, jusqu'à ce que je trouve cette photo qui est en légère plongée, où j'ai enfin compris comment les choses étaient installées. Alors on a donc le coussin, vous voyez le coin du coussin, il y a un coussin recouvert d'un tissu, dessus le bouclier d'Athéna qui est posé sur le coussin, et le pied droit de Persée posé sur le bouclier, le corps de Méduse est recroquevillé, contorsionné, à demi couché sur le bouclier, et le pied gauche de Persée est posé sur le corps de Méduse. C'est un travail époustouflant. En plus, la position est invraisemblable, mais il fallait que ça tienne dans un carré. C'est étonnant. Bon. Donc, le corps a les jambes repliées dans un angle inusité, sa main gauche étant agrippée à une cheville. On ne sait pas quelle cheville, c'est à droite ou à gauche, j'en sais rien. Et l'autre bras retombant inerte le long du socle. C'est absolument magnifique. Et on le voit encore, vous voyez, le corps de Méduse avec le pied gauche de Persée posé sur le corps de Méduse. En un côté, il a une position stable, il est appuyé sur le bouclier, et de l'autre, sur le corps. Du coup, décapité, s'échappe un torrent de sang, vision frappante pour l'époque. Il faut à Cellini 2 ans avant de couler et de démouler Méduse. Le résultat est impeccable. Il lui vaut l'estime, également la jalousie, de l'entourage du duc. Cellini doit même défendre son projet auprès du duc, déjà impatienté des délais de réalisation, et qui doute, comme les autres, de la possibilité de couler le bronze imposant du percé. Cellini finit par le convaincre de continuer, mais la relation entre les deux hommes demeure fragile. Benvenuto poursuit son travail pour le percé, malgré les obstacles. Bandinelli lui offre un bloc de marbre pour faire une statue, mais le bloc est fêlé. Cependant, Benvenuto en tirera l'Apollon et Hyacinthe qui se trouvent au Bargello. Alors, je suis le déroulement de son récit, et ce récit, il n'est pas continu, parce qu'il faut penser au travail. Il vient de couler Méduse, mais une fois que le bronze a été dégagé de l'enveloppe en terre, il y a tout un travail de ciselure, de polissage du bronze, il faut nettoyer tous les petits éléments qui dépassent. Enfin, c'est un travail extrêmement long qu'il confie à ses apprentis. Et pendant ce temps, lui peut faire autre chose. Le duc reçoit une statue de marbre grec. Alors, c'est une statue incomplète. En gros, il n'y a que le torse et les amorces des bras. Une figure d'enfant. Benvenuto propose d'en restaurer la tête, les bras et les pieds, comme ça se faisait à l'époque, et d'ajouter un aigle pour en faire un Ganymède, Et ce Ganymède se trouve lui aussi au Bargello. Alors je vous montre un autre Ganymède en bronze qui se trouve au Bargello, qui a longtemps été attribué à Cellini. Il est maintenant attribué à Niccolò Pericolo ou à Bartolomeo Ammannati. En tout cas, il n'est plus attribué à Cellini. Il sculpte aussi un narcisse pour son propre plaisir. Mais lors d'une inondation de son atelier, la sculpture se renverse et se brise en deux au niveau des aisselles. Il a été restauré, mais vous voyez la trace de la cassure. Il réalise le modèle en cire de Persée. En raison de sa taille, la statue doit être creuse. Sinon, le poids du bronze le rendrait impossible à déplacer. Il lui faut donc reprendre les différentes étapes préparatoires, comme celle qu'il avait déjà fait pour Méduse, là c'est beaucoup plus complexe. Il conçoit une armature, ça se lit de gauche à droite un petit peu, je ne resterai pas sur les détails. Il applique la glaise sur l'armature et la façonne pour former le noyau en terre du moule. Le moule sèche d'abord à l'air libre, puis il est chauffé au feu pour éliminer toute trace d'humidité. L'étape suivante consiste à recouvrir le noyau en terre d'une couche de cire d'une épaisseur équivalente à celle du métal, soit environ 1 cm. Souhaitée pour la sculpture, la cire malléable sert à façonner tous les détails de la statue, les traits du visage, la musculature, les veines apparentes, etc., qui seront figés par le bronze. Une fois ce travail accompli, qui révèle déjà l'apparence finale de l'œuvre, il faut recouvrir la cire d'une enveloppe de terre. À ce stade, il importe de prévoir aussi un système de tublure par lesquels le métal en fusion va descendre dans toutes les zones du moule, tout en permettant à l'air de s'échapper. Pour ne pas abîmer la cire et donc endommager la sculpture, il faut d'abord la recouvrir d'une mixture protectrice. La préparation est appliquée avec soin à l'aide d'un pinceau. L'opération est répétée plusieurs jours d'affilée, couche par couche très mince, qu'on laisse sécher entre chaque application. Cette couche protectrice peut alors recevoir des revêtements successifs de terre, tout en préservant les détails de la cire ainsi protégée. À présent, il faut éliminer la cire emprisonnée entre le noyau et la couche extérieure. C'est cet espace qui va ensuite être comblé par le bronze au moment de la coulée. Un fourneau de 4 mètres de haut est construit autour du moule pour terminer le séchage. La cire s'écoule par les tubulures, d'où le nom de procédé de fonte à la cire perdue. Le moule est enfin prêt à recevoir le bronze. Le bronze va être coulé dans l'espace entre les deux couches de terre. Avant d'effectuer la coulée, il est nécessaire d'enterrer le moule au pied du fourneau où le métal sera fondu. Cela permet de protéger le moule contre l'éclatement du versement de 2 tonnes de métal. Et cela est aussi une garantie pour que le métal ne refroidisse pas trop rapidement. Il a fallu 6 mois pour enterrer le moule et construire l'énorme fourneau où le métal allait être fondu. La fosse pour le moule est creusée sur une profondeur de près de 4 mètres. Le moule est ensuite descendu à l'aide d'un treuil. Il fallait éviter tout choc au moule car le moindre craquement aurait obligé à tout recommencer. Le fourneau destiné à faire fondre le métal a été fabriqué avec le plus grand soin en tenant compte du volume suffisant pour recevoir tout le métal nécessaire. 5 années s'étaient déjà écoulées depuis que Compromis avait commandé le percé. La tension était vive avec le duc. Cellini faisait l'objet d'une cabale devant ce projet que tous qualifiaient d'irréalisable. Malgré tout, Cellini s'acharne. Sa gloire et son honneur étant en jeu, en cas d'échec, il serait banni de Florence et ne pourrait plus exercer son métier. Le jour de la fonte, les lingots de cuivre, de laiton et d'étain, 2 tonnes au total, sont disposés dans le fourneau. Toute l'équipe de Cellini est à l'œuvre. Suite une longue description de la préparation de la fonte qui constitue une scène dantesque. Benvenuto s'occupe du fourneau en faisant fondre les pièces de métal, mais le feu est si fort que l'atelier s'enflamme. Benvenuto doit combattre l'incendie. Il finit par tomber d'épuisement. Il est abattu par une forte fièvre pendant 2 heures. Quand un ouvrier vient lui annoncer que la statue est perdue, il se relève furieux et constate que le métal est coagulé et qu'il forme un gâteau, une croûte solide. Pour activer le feu, il jette dans le foyer des bûches de chêne tout en combattant l'incendie qui ravage toujours l'atelier. Il fait chercher 20 kilos d'étain qu'il jette dans le fourneau. Le gâteau se liquéfie aussitôt, mais le couvercle du fourneau éclate. Le bronze déborde. Il ajoute encore toute la vaisselle d'étain qui lui tombe sous la main. Le bronze, bien liquéfié, est enfin versé dans le moule. Après ce long combat, Benvenuto s'aperçoit qu'il est guéri. Après 2 jours de refroidissement, le moule est déterré et extirpé de la fosse. Cellini entreprend de fendre l'enveloppe extérieure en terre pour dévoiler la statue. Tout est réussi tel qu'il l'avait prévu. Les mois qui vont suivre vont être consacrés à couler le sabre et les ailes du casque et des sandales, à les fixer sur la statue, à ciseler les détails abîmés par la fonte et à polir la surface, un travail long et minutieux. Benvenuto précise qu'il prit son apprenti Cencio comme modèle pour la tête de Méduse. En observant la sculpture, on constate que le visage de Persée et celui de Méduse semblent très proches. Cette similitude des traits a été interprétée comme étant une fusion entre le bien et le mal. De cette manière, Cellini mêle le héros et le monstre. Il embauche aussi un jeune homme de 18 ans, Bernardino Manellini, qui lui servira de modèle pour le Mercure du piédestal, que l'on va voir. Engagé comme serviteur, il apprendra à aider Benvenuto dans son travail de sculpteur. Alors, je vous montre quelques détails, parce que quand même, il faut regarder ça de près, c'est époustouflant. Vous voyez la beauté du casque avec les ailes sur les côtés, l'espèce de monstre là, je sais pas si c'est au sommet du casque, les boucles ciselées qui abondent autour du visage de Persée. Et à droite, ce qui est probablement un dessin préparatoire, même s'il a subi des modifications, mais on retrouve l'idée du casque ailé avec le griffon, je ne sais pas si c'est un griffon, un monstre quelconque au-dessus. Ça aussi, c'est intéressant de regarder le visage de Persée de face et de dos. Et vous voyez que, ici, c'est un portrait de Cellini. On devine le nez, les yeux, la bouche, et les boucles de cheveux de Persée deviennent la barbe de Cellini. C'est une merveille. Vous voyez le détail de la musculature, extrêmement élaboré. Et on va regarder la main qui est très belle, avec le volume des veines dessus, la main crispée sur la poignée, et la poignée qui est un travail d'orfèvre, une ciselure extrêmement fouillée. Et le pied gauche, celui qui repose sur le corps de Méduse, on voit la petite aile attachée par une lanière. Et on termine par la tête de Méduse, de face, d'où s'écoule un flot de sang. Ne lésinez pas sur les détails. Et à droite, cette fantastique chevelure composée de serpents entremêlés. Et enfin, la signature, évidemment, sur le torse à gauche, Benvenutus Cellinus, son nom latinisé, et au dos, sur la sangle, sur le baudrier, la date Faciebat 1553. Donc, il faut signaler tout ça, hein. Pendant que les ouvriers poursuivent le travail sur le Persée selon ses instructions, Benvenuto va à Rome pour faire un buste en bronze de Bindo Altoviti, riche marchand florentin fixé à Rome. Benvenuto n'oublie pas de signaler que Michel-Ange a vu son buste et qu'il l'a admiré. De retour à Florence, il réalise les 4 figures de bronze qui doivent être encastrées dans le piédestal en marbre. Ces 4 figures sont en relation avec Persée, la sculpture principale. Je vous rappelle que Jupiter s'est accouplé à Danaé sous la forme d'une pluie d'or et que Persée est né de cette union. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on va tourner autour du piédestal et on va voir qu'il s'agit d'une vraie photo de famille. Devant, le papa. Jupiter est le père de Persée. On tourne par la gauche et on voit la maman, Danaé, avec le petit Persée à ses pieds. On tourne encore et on voit Mercure. Alors Mercure est le fils de Jupiter et de la nymphe Maïa. Je ne dis rien pour l'instant, je continue. On trouve Minerve. Minerve est la fille de Jupiter et de la nymphe Métis. Donc, Mercure et Minerve sont les frères et sœurs de Persée. Mais pourquoi sont-ils là? Alors qu'il cherchait les Gorgones, Persée a rencontré Mercure et Minerve qui lui ont fourni des armes pour réussir sa mission, tuer Méduse. Mercure lui donna une arme, la harpée, c'est un sabre recourbé normalement, mais là, il ne l'a pas représenté ainsi. Minerve lui prête son bouclier de bronze poli pour lui permettre d'approcher Méduse sans être pétrifié. Et les nymphes du Nord lui procurent des sandales ailées et le casque de Pluton qui rend invisible. Enfin, un bas-relief en bronze que vous voyez au-dessous, à la base de la composition. Illustrant la libération d'Andromède par Persée, est installé sur la base du socle dans un cadre de marbre rectangulaire. Le bas-relief en bronze qui représente Persée libérant Andromède fait partie intégrante de l'ensemble sculpté par Cellini. Dans ce bas-relief, Benvenuto rappelle un autre exploit de son héros. Capturé par les Néréides, Andromède doit être dévoré par un monstre marin. Persée arrive, tranche la tête du monstre et délivre Andromède. Il tombe à bras d'elle et l'épouse. À droite, ce sont les parents d'Andromède que l'on voit. Mais son intention principale est autre. Ce relief, ajouté à la fin du projet, offre la clé de la signification théorique et polémique du grand Persée monté sur son piédestal. Encadré de marbre comme un tableau, la libération d'Andromède fait entrer les spectateurs dans la querelle de l'époque sur la valeur respective des arts, le fameux débat du paragone. Le paragone est un débat de la Renaissance italienne. Le mot en italien signifie « comparaison ». Ce débat consiste à savoir quelle forme d'art entre l'architecture, la sculpture et la peinture est supérieure aux autres. Léonard a écrit un traité sur la peinture qu'il juge supérieur aux autres arts. Michel-Ange répondit par un traité démontrant la supériorité de la sculpture. Vasari affirma que le dessin étant le père de tous les arts était de ce fait le plus important. Dans son bas-relief, Cellini affirme la supériorité de la sculpture par rapport à la peinture et au dessin. Le nu mystérieux et sans profondeur du centre de la composition ressemble à un dessin. Vous voyez ce personnage, on ne sait pas ce qu'il c'est. Il est à peine en relief. Donc on est au niveau de la symbolique. Il le compare au dessin. Il y a une autre sculpture plus en relief, comme celle d'Andromède, par exemple, qui est au milieu, qui évoque pour lui la peinture. Pour l'orfèvre sculpture Cellini, la preuve de la supériorité de la sculpture réside dans sa capacité à libérer la beauté plastique et humaine des contraintes de la surface. Littéralement enchaîné au mur, son Andromède en relief illustre, certes, au niveau symbolique toujours, le plus haut degré de la peinture, mais en même temps l'impuissance et les limites de cet art. Si l'autobiographie et les écrits théoriques de Cellini donnent bien à la sculpture en ronde bosse la première place parmi les arts, encore fallait-il prouver, sans recours aux mots, cette supériorité. C'est ce que fait voir le monument du Persée, à condition d'en considérer l'ensemble. Le Persée en ronde bosse, qui est au-dessus, se dégage totalement de la surface plane. Finalement, Cellini nous dit, regardez mon Persée sous tous les angles, n'est-il pas supérieur à tout ce que peut réaliser la peinture? Alors voilà un détail du Persée de cette plaque de bronze. Une œuvre de Daniele da Volterra illustre ce même débat artistique qui opposait les mérites respectifs de la peinture et de la sculpture. Daniele est contemporain de Cellini, complètement. Ce tableau exceptionnel, peint vers 1555, est conservé au musée du Louvre, dans la Grande Galerie italienne. Il représente la même scène, David sur le point d'achever Goliath, sur les deux faces d'une même plaque, le recto à gauche, le verso à droite. D'une même plaque d'ardoise, de deux points de vue opposés, le recto et le verso. Il a choisi une plaque d'ardoise de grande taille, 1m33 sur 1m77, très plane et d'une qualité remarquable. La peinture est exceptionnelle, car il n'existe pas d'autre exemple à la fois de peinture sur une aussi grande ardoise et de peinture représentant la même scène vue de face et de dos. Bien qu'en deux dimensions, le fait d'être à double face permet au tableau de tenter de rivaliser avec la sculpture. C'est une œuvre extraordinaire et monumentale. En plus, elle est montée sur un piétement en bois doré. C'est très impressionnant. Il fallut encore 4 ans pour achever le socle et procéder à l'installation sous l'arcade de la loggia dei Lanzi. Le transport des 3 lourdes sections, méduse, percée, et le socle est délicat et ardu. Le percé à lui seul pèse 1800 kg. Quand Benvenuto dévoile la sculpture, le vendredi 27 avril 1554, une foule innombrable se rassemble et tous rivalisent de louanges, parmi lesquels les peintres Pontormo et Bronzino. Mais au moment de payer les frais du percé, le duc se montre désagréable et conteste la somme demandée, malgré ses engagements. Quelque temps plus tard, Benvenuto a une nouvelle déconvenue. Il apprend que le duc a attribué un gros bloc de marbre à Bandinelli afin de réaliser un Neptune. Il réalise 2 petits modèles différents. C'est un Neptune qu'il présente au duc en lui affirmant que Bandinelli ne fera qu'une œuvre médiocre. Le duc est séduit par le travail de Benvenuto, mais Bandinelli meurt. Le marbre doit être attribué à un autre sculpteur. Alors Benvenuto entreprend un modèle en terre de grande taille de son Neptune. Finalement, c'est Bartolomeo Ammannati qui obtient la commande grâce à l'influence de la duchesse. Cellini apprend la nouvelle. Oh, le malheureux marbre! Dans les mains de Bandinelli, il était mal tombé, c'est sûr. Mais entre celles d'Ammannati, c'est 100 fois pire. Benvenuto ne recevra plus aucune commande du duc et la statue d'Ammannati, le Neptune d'Ammannati, est sur la place de la Signoria à Florence, à côté du Palazzo Vecchio. En 1556-57, il sculpte pour lui-même son ultime chef-d'œuvre, un grand crucifix, grandeur nature, en marbre très blanc, sur une croix de marbre du plus beau noir. Le Christ de 1,85 m est représenté entièrement nu. Alors là, c'est tel qu'on peut le voir à l'Escorial. Voici tel que Cellini l'a sculpté. Le Christ de 1,85 m est représenté entièrement nu, dans une position douloureuse. Il avait l'intention d'offrir son marbre à l'église Santa Maria Novella pour qu'il soit fixé au-dessus de son propre tombeau. Benvenuto montre le Christ au duc et à la duchesse, qu'il admirèrent beaucoup. Il est magnifique. Les représentations du Christ en croix nue sont rares. Le plus connu est une œuvre de Genèse de Michelangelo qui se trouve dans la basilique de San Spirito à Florence. Mesure 1,39 m de haut. Mais l'œuvre de Cellini est très audacieuse parce que Jésus est représenté grandeur nature avec un grand naturalisme, tellement audacieux qu'il est toujours affublé d'un voile de pudeur. En 1565, le duc Francesco de Medici, fils de Cosimo, l'acheta pour 1500 écus d'or et l'installa au Palazzo Pitti. Puis il l'offrit en 1576 au roi Philippe d'Espagne qui le plaça à l'Escorial où il se trouve toujours. Ce bouquet d'argent attribué à Cellini a été réalisé pour Francesco de Medici. Il fait référence à celui d'Athéna puisqu'il est orné de la figure de Méduse au centre. Il est aussi orné de médaillons. L'un représente David décapitant Goliath que vous avez à droite. En fait, il est orné de 3 décapitations, Méduse, Goliath et Holoferne. Je vous signale au passage que Marie de Médicis est la fille de Francesco, la fille de François Ier de Médicis. De 1558 à 1567, il travaille à son autobiographie et en 1568, il publie son traité sur la sculpture et la manière de travailler l'or. Benvenuto Cellini meurt le 13 février 1571 et il est enterré à Florence dans la basilique de la Santissima Annunziata, dans la chapelle des peintres, ou de la compagnie de Saint-Luc, qui était le patron des peintres. Le retable placé au-dessus de l'autel de la chapelle est une peinture à fresque de Giorgio Vasari, représentant Saint-Luc peignant la Vierge, ou plutôt l'apparition de la Vierge. La chapelle Saint-Luc appartient depuis 1561 à la confrérie des artistes. 15 d'entre eux sont ensevelis ici, comme Benvenuto Cellini, Jacopo da Pontormo, Andrea del Sarto, Francia Biggio. Il y avait un très beau portrait d'homme de Francia Biggio au musée Jacquemart-André, Gian Bologna, un sculpteur, et Pietro Tacca, un sculpteur de bronze, etc. Il y en avait d'autres. Les honneurs que l'on rendit à Cellini après sa mort prouvent la grande considération dont il jouissait, Benvenuto meurt le 13 février 1571, 7 mois et demi plus tard, le 29 septembre de la même année, Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, vient au monde. Comme vous en doutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de la vie de Benvenuto. La plupart des pièces d'orfèvrerie réalisées par Benvenuto ont malheureusement disparu dans les fonds successives. Cependant, les 4 chefs-d'œuvre que je vous ai montrés, la Salière, la Nymphe de Fontainebleau, le Percé et le Christ en croix, suffisent à le considérer comme l'un des grands orfèvres et sculpteurs de la Renaissance italienne. En 1568, Giorgio Vasari écrit ceci au sujet de Cellini. Il était en tout audacieux, fier, vivace, rapide, terrible, capable de dire l'Orphée au prince autant que d'employer son esprit et sa main aux œuvres d'art. J'espère vous avoir donné envie de lire le texte intégral. Je vous remercie de votre attention.